Mercredi 2 septembre 2020, ravi de vous retrouver fidèles auditeurs du studio Kalangou pour cette édition de 18h. Au micro, je suis Rokaito Abdraman. À la une du journal, une nouvelle structure dénommée Coalition citoyenne pour la République, CCR, a été créée ce week-end à Niamey, regroupant syndicats, associations et partis politiques. Une analyse du politologue professeur Issoufou Yahaya à suivre dans ce journal. La plupart des médicaments modernes utilisés proviennent de la pharmacopée traditionnelle, a déclaré ce matin la représentante pays de l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion du 18e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Dans la partie magazine de cette édition de la migration irrégulière, à suivre un entretien avec Stéphanie Ekman, agent de sensibilisation communautaire à l'OIM. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Une nouvelle structure regroupant à la fois des syndicats, associations et partis politiques a été créée le week-end dernier à Niamey, dénommée Coalition citoyenne pour la République CCR. Selon professeur Issoufou Yahaya, politologue et enseignant-chercheur à l'Université de Niamey, l'opposition politique nigérienne veut tout simplement recoller les morceaux afin d'éviter les erreurs du passé pour se mettre en ordre de bataille et chercher l'alternative. Professeur Issoufou Yahaya, joint au téléphone par Mokhtar Mahmoud.
L'opposition et tous ceux qui ne semblent pas partager cette gouvernance actuelle ou ceux qui ont souffert de cette gouvernance sont aussi en train de se restructurer pour affronter la majorité, le camp présidentiel, qui n'est pas en reste puisque son champion, l'ancien ministre d'État, le président du PNDS, M. Bazoum, est en campagne. Si l'opposition a brillé à un certain moment, c'est par son absence. En dehors de quelques déclarations laconiques, elle n'a jamais été véritablement présente sur le terrain de lutte, surtout à partir de fin 2015, début 2016. Donc l'opposition politique s'est aussi illustrée par un peu sa division avec au moins 4 fronts. Je pense qu'ici, elle est en train de racoler les morceaux pour se mettre en ordre de bataille et chercher l'alternance démocratique.
Le vote électronique n'est pas institué par le code électoral nigérien, donc le vote sera manuellement avec les cartes d'électeurs biométriques sécurisées, a déclaré Maître Isaac Souna, le président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. C'était le 30 août dernier, lors d'un point de presse animé à Niamey. Maître Isaac Souna, je vous propose de l'écouter.
Le code électoral du Niger n'institue nulle part le besoin ou la décision de mettre en place un vote électronique. Le vote électronique consiste à ajouter, au-delà des instruments du vote manuel, des éléments, ce qu'on appelle des périphériques, qui permettent de connecter ce qui se passe sur le bureau de vote instantanément sur un réseau qui affirme, confirme et surveille le processus. Nulle part il est question d'instituer un vote électronique, et le vote électronique n'est ni prévu par la loi, ni prévu par la CENI, ni mis en œuvre. Le vote est et demeure manuel. La carte, elle est biométrique. Le fichier lui-même est biométrique. Nous avons un numéro unique que nous donnons à chaque électeur, à partir duquel tout autre électeur ne peut pas se faire passer pour lui.
Propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale Télé Sahel. Une foire exposition sur la médecine traditionnelle a ouvert ses portes ce matin au stade général Saint-Kountié de Niamey. C'est une initiative à l'occasion de la 18e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, avec comme thème « Quel progrès pour le pays ?» Selon la représentante pays de l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des médicaments modernes utilisés proviennent de la pharmacopée traditionnelle. Écoutons Dr Blanche Ania, représentante de l'OMS Niger, à des propos recueillis par Salamatou Kadri.
La médecine traditionnelle, c'est un programme qui est très 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 important parce qu'on doit travailler avec la pharmacopée traditionnelle pour s'assurer que nous contribuons effectivement à l'amélioration de la santé des populations. L'Afrique est très riche en pharmacopée traditionnelle, et face à cette richesse et que la plupart des médicaments modernes que nous utilisons viennent à partir de la pharmacopée traditionnelle, donc il est important de promouvoir tout ce qui sort de la pharmacopée traditionnelle et même de valoriser cela pour qu'on puisse vraiment nous assurer que tout ce qui est fait au niveau de la pharmacopée traditionnelle contribue efficacement à ce qui est fait au niveau de la médecine moderne. Donc les deux doivent travailler main dans la main. Les tradis praticiens ont été formés dans différentes disciplines de la santé. Ça les aide maintenant à mieux comprendre la santé et à mieux comprendre ces maladies-là. Et ça facilite vraiment la collaboration entre les deux médecines.
Dans le 5e arrondissement de Niamey, certains sinistrés sont accueillis dans les écoles où une dizaine de familles cohabitent dans une même salle de classe, une situation que déplorent beaucoup d'entre eux, notamment les femmes qui ne se sentent pas vraiment en sécurité. Selon Hadiza Issa, la déléguée des femmes d'une des classes à l'école Kirkisoy 1, beaucoup ont préféré confier leurs filles chez les parents plutôt que de les exposer à d'éventuels esprits malveillants.
Nous vivons tous ensemble, on ne peut même pas distinguer père, mère, fils, mari. Notre condition de vie laisse à désirer parce que nous n'avons pas accès à l'eau. Les deux robinets de l'école sont hors service. Nous sommes logés dans l'école Krixe 1. Nous sommes 11 femmes dans la même classe. Nous dormons dans la cour de l'école. Les voleurs nous tâtent toute la nuit à la recherche d'argent. Mais un sans-abri ne peut avoir d'objet de valeur. Nous sommes vraiment exposés à tous les risques. Nous sommes ici depuis mercredi et nous avons confié nos filles chez certains membres de nos familles. Les toilettes sont insalubres et inutilisables. Les conditions de vie ne sont pas réunies. Mais vu que nous n'avons nulle part où aller, voilà pourquoi nous sommes ici.
À Walam, région de Tillabéri, les propriétaires des champs à proximité de la base militaire d'Ango ne savent plus à quel sein se vouer. En 2018, c'est un rappel, pour des raisons de sécurité, les militaires leur avaient intimé l'ordre de ne point s'aimer de mille. À ce sujet, à ce jour, ces cultivateurs attendent encore d'être dédommagés parce que selon leurs représentants, ils ont seulement autorisation de s'aimer du niébé qui ne peut couvrir leurs besoins. Écoutons un propriétaire de champs au micro d'Ilias Gumande.
Jusqu'à présent, le bras de fer est là entre nous et les militaires. Aucune bonne suite. Et même cette année, à l'entrée de la campagne agricole, ils nous ont dit de ne pas semer le mil, mais de semer du haricot. Certains l'ont fait, mais d'autres n'ont pas répondu du tout. Nous leur demandons, eux qui détiennent la force publique par la clémence de Dieu, ils n'ont qu'à penser à nous, parce que le paysan n'a autre chose à faire que de cultiver son champ en sémant du mil. Voilà un an que nous n'arrivons pas à le faire. Et on nous demande de cultiver du haricot. Et nous avons fait ce qu'ils ont demandé. Mais malheureusement, on nous laisse à l'abandon. Nous leur demandons à cause de Dieu qu'ils nous dédommagent. La situation que nous observons nous inquiète beaucoup. Nous demandons aux plus hautes autorités de ce pays de voir cette situation par laquelle nous sommes meurtris.
Femmes migrantes, femmes des médias, des arts, de la culture, même rêve, même aspiration d'autonomisation est le thème de la deuxième édition de la rencontre des femmes des médias, des arts et de la culture. REFEMAC du 24 au 29 août 2020. 20 femmes ont pris part à cette activité, une initiative de l'unité artistique et culturelle Art Disc Record avec l'appui de l'Organisation internationale pour la migration OIM dans le but de les former sur les enjeux de la migration irrégulière, explique Omer Sarah, une participante. Elle est au micro de Rekia Arimi.
Nous avons appris beaucoup de trucs sur la migration irrégulière et connu les causes, les conséquences et quelques solutions pour lutter contre cette migration irrégulière. De nous maintenant, OIM attend que les artistes et les médias ensemble se fusionnent pour pouvoir créer d'autres solutions, pouvoir créer des projets afin de pouvoir vraiment radicaliser et éradiquer cette migration irrégulière qui prend de l'ampleur et surtout qui touche beaucoup les femmes et les filles. Nous sommes dans un monde où la jeune fille aime ce qui est plus que ce qu'elle a. Donc ce sont ces trucs qui poussent chacune d'entre elles à se lancer dans cette aventure. J'ai compris finalement que ce n'est pas une bonne aventure parce que les conséquences sont néfastes. Fuir ou passer par d'autres canaux pour partir dans un autre pays sans papier, c'est vraiment pas bon du tout. Tu es en danger. Et puis ce pourquoi tu as quitté peut revenir. Ce n'est pas atteint. On t'attendait pour venir en de bonne forme et tu viens pas. Le mieux c'est quoi? Aller à ton ambassade, chercher des papiers, faire tout dans les normes et partir à l'extérieur travailler.
Sawa, la capitale de l'Ader, a accueilli du 28 au 30 août dernier le festival inclusif couplé à une foire itinérante sous le thème Nakasa ba Kasawaba, qui veut dire en langue française « le handicap n'est pas une fatalité ». L'objectif était de montrer le génie créateur des personnes handicapées à travers l'art, la culture, l'artisanat et le sport, a déclaré le chef de projet. Le festival a enregistré la participation des régions de Tillabéri, Niamey, Maradi et Tawa. Madame Boubacar Zainabou, chef de projet du consortium Audi, est au micro d'Abdoulaye Aoussouk.
Nous voulons donner une nouvelle image de la personne handicapée à toute la population de l'ADER. Nous voulons leur faire comprendre que la personne handicapée n'est pas seulement une personne qui passe ses journées ou son quotidien à mendier, mais elle peut également contribuer au développement socio-économique de son pays ou de sa région. Donc ce festival est un espace créé pour donner aux personnes handicapées l'opportunité de faire valoir leur potentialité. Le festival inclusif prend en compte les régions de Maradi, Tawa, Tillabéri et Niamey, 4 zones d'intervention. Et nous voulons, à travers ce festival, donner l'occasion aux populations de l'ADER, à tous ceux-là qui sont venus de voir, d'observer et de constater eux-mêmes ce que font les personnes handicapées.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
La migration irrégulière était au centre d'une formation du 24 au 29 août 2020 à Niamey. C'est une initiative de l'unité artistique et culturelle Art Disc Record et de l'Organisation internationale pour la migration OIM. À cette deuxième édition, 20 femmes des médias ont été formées sur les enjeux de la migration. La migration n'est pas un crime, mais plutôt une bonne chose et le faire de manière régulière l'est encore mieux, a déclaré Stéphanie Ekman, agent de sensibilisation communautaire à l'OIM. Elle était au micro de Rachiarimi.
Est-ce qu'on peut dire que la migration est une bonne chose?
Je pense que la migration est absolument une bonne chose. Je pense que c'est très important pour nous de sortir au-delà où on a grandi pour voir et pour découvrir des autres cultures, pour échanger, partager des idées et pour essayer de faire des belles choses ensemble.
On pense souvent que la majorité des Africains de l'Ouest entrent illégalement en Europe.
Ben, c'est pas le cas. La majorité des Africains de l'Ouest rentrent en Europe de façon complètement légale. Que c'est pour les études, que c'est pour le travail, que c'est pour rencontrer leur famille. C'est pas du tout le cas. C'est qu'une toute petite pourcentage, on parle peut-être 20% des personnes qui migrent en Europe venant de l'Afrique de l'Ouest, qui le font de façon irrégulière. La migration irrégulière, ça veut dire quand on migre sans les documents nécessaires pour pouvoir migrer. Parce qu'on sait tous que quand on va migrer, il faut respecter les lois du pays où on va. Donc il faut nécessairement avoir les documents de voyage comme un passeport et des fois avoir un visa et faire un dossier complet pour avoir ce visa au niveau de l'ambassade ou le consulat qui est chargé de cela.
Quels sont les risques et les dangers qui courent les migrants?
Il y a énormément de risques parce que du fait qu'on migre de façon irrégulière, ça veut dire qu'on a un statut légal qui n'est pas connu. Ça veut dire qu'on n'est pas protégé de la même façon où les gens qui ont ce statut légal sont protégés. Ça veut dire qu'on est ouvert à tout type d'abus, que ce soit la violence, que ce soit le travail forcé, que ce soit les abus sexuels, surtout pour les femmes forcément, que ce soit le fait d'être arnaqué. Il y a plein de choses sur lesquelles les gens ne sont pas protégés. De l'autre côté aussi, il y a un manque d'accès. Parce que quand on n'a pas un statut légal, ça veut dire qu'il y a un manque d'accès au niveau des soins de santé, au niveau de l'éducation de base, au niveau de plein de choses dont le gouvernement est responsable. Mais si on n'a pas de statut légal, on n'a pas accès à ces choses-là, qui fait en sorte que ces personnes sont encore plus vulnérables.
La traversée du désert, on sait que des gens meurent en cours de la route. Est-ce qu'il y a un chiffre?
Il n'y a pas de chiffre officiel, malheureusement. Du fait que le désert est tellement étendu et qu'il n'y a pas d'études spécifiques par rapport à ça. Mais on sait, de la part des chiffres qu'on voit sur les sorties et les rentrées, on peut dire que c'est un chiffre énorme. Et quand on a déjà des chiffres qui sont plus ou moins corrects par rapport à la traversée de la Méditerranée, on peut dire que pour chaque personne qui meurt en Méditerranée, il y en a au moins deux qui meurent dans le désert.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et au revoir.